Bienvenue à tous sur mon épisode numéro 1 de la campagne Starfinder. Dans celle-ci, je prends un chemin d'aventure, on appelle un adventure path en anglais, qui est intitulé Down of Flame. Je le traduis et l'adapte pour en faire une narration en français. Mes joueurs commencent donc au niveau 1 et avec une connaissance minime des mécaniques du jeu et de l'univers de Starfinder. C'est des tout nouveaux débutants, comme la majorité des spectateurs qui vont regarder la vidéo aussi. Puis c'est ça que j'aimais un peu comme ambiance. Venez donc avec nous passer au travers la gamme complète des émotions et se plonger avec nous dans la joie de l'imaginaire. Le tout joué sur la plateforme Tabletop Simulator et j'espère que certains DM sauront apprécier la valeur de Tabletop pour rouler une game. Ça fait différent de Roll20, ça a ses avantages et ses désavantages. Moi personnellement, c'est ma plateforme préférée. Vous allez donc pouvoir découvrir mes joueurs ainsi que l'univers un épisode à la fois. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode prologue, je vous invite à aller le voir et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour m'aider dans mon projet. Si vous voulez m'aider encore plus et me permettre de continuer de vivre de mon rêve, je vous invite à aller écouter les versions complètes et sans édition. Et cela dès qu'ils sont prêts, disponibles sur le Patreon de Questions de Perspective. Le tout est affiché en bas dans le carré d'information du vidéo. À partir du grade VIP, vous allez avoir accès à tous les épisodes sans édition et qui sont souvent des vidéos qui durent entre 4h30 et 5h de long. Si vous prenez le grade gamer, vous allez pouvoir me décrire un NPC que vous aimeriez voir apparaître un jour dans la campagne et je vais essayer de lui rendre vie et de lui rendre justice. Évidemment, les conversations vont se faire sur le Discord. Deux questions de perspective. Si vous prenez le grade encore supérieur qui s'appelle mécène, nous prendrons un moment ensemble pour discuter et vous serez capable de créer avec moi une quête parallèle que nos joueurs vont pouvoir vivre le temps d'une petite aventure et qui va nous faire un petit break de l'univers ou du chemin déjà tracé de Down of Flame. Bonne écoute à tous et que l'aventure commence. Bienvenue tout le monde dans l'épisode 1 de la campagne Starfinder. Bienvenue à mes joueurs, bienvenue à ceux qui vont écouter la campagne. Je voulais commencer en vous décrivant l'ambiance un peu et la cité dans laquelle les personnages auront grandi avant qu'ils partent dans leur grande aventure de niveau 1, hein, puisqu'on sait que on commence tout à quelque part dans une histoire, puis c'est important qu'on commence. Fait que la description d'Absalom, elle est celle-ci. Flottant dans l'orbite autrefois occupée par Golarion, la station Absalom est le foyer principal de l'humanité, et le centre incontesté du commerce interstellaire et de la gouvernance parmi les mondes du Pacte. D'ici, le Conseil du Pacte et sa légion de délégués de tous les mondes reconnus par le Pacte contrôlent la fragile alliance qui maintient l'harmonie dans le système solaire, tout en régulant également les revendications de propriété sur les mondes nouvellement découverts. Ici aussi se trouvent des officiers chargés de l'application de la loi interplanétaire appelée Stewards. On retrouve aussi les bureaux d'Adabar Kor, au moins sur le plan matériel, ainsi que les archives des Starfinder qui explorent la galaxie et encore bien d'autres choses. Pourtant, la caractéristique la plus importante de la station spatiale n'est pas sa grande et mystérieuse architecture, ni sa myriade de résidents, mais l'étrange artefact enfermé au plus profond du noyau de la station, appelé la Starstone. Pour des raisons inconnues même par les prêtres de Triune, le dieu de l'informatique, la pierre des étoiles n'alimente pas seulement la station, mais agit aussi comme une balise hyperspatiale immensément puissante. Celle-ci permet au vaisseau de sauter rapidement dans l'espace qui l'entoure. Et cela, quelle que soit la distance, et faisant de la station Absalom un point de relais naturel pour les voyages revenant d'au-delà du système solaire. Personne ne sait qui a construit cette vaste plateforme spatiale, ni quand elle est entrée dans l'orbite de Golarion. Absalom possède sa propre gravité artificielle. À l'exception de certains quartiers individuels réaménagés pour répondre aux besoins environnementaux des aliens résidents. La plupart de la station semble conçue pour le confort humanoïde. Autrement, les quartiers voisins ont souvent des cultures et des conditions de vie étonnamment différentes. Depuis les bureaux d'études de Sparks, les querelles de réservoirs inondés de Puddles, ou encore les bars de Drifter's End et les élégantes enclaves corporatives de Blue Rise Tower. En règle générale, l'argent et le pouvoir coulent vers l'intérieur depuis les nombreux quais animés, vers le grand dôme en forme de parc, connu sous le nom de l'œil.
Tandis que les masses opprimées s'enfoncent dans les verrous d'accès du Spike, les gangs règnent sur les quartiers populaires tels que Buttscrap, Downlow et Pipetown. Mais leur timide alliance filtre jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement via la Syndic's Guild de la station. L'organe législatif qui donne à chaque quartier une voix dans la politique de la station et élit le premier exécutif ou le Primex, qui va dirigeant. En plus de la plateforme elle-même, la station d'Absalom est entourée d'un essaim de vaisseaux non arrimés qui s'appelle l'Armada. Celle-ci est en constante révolution autour de Absalom. La station ne dispose que d'une modeste flotte de sécurité puisqu'elle dépend plutôt des stewards et des résidents qui gravitent autour dans l'armada. Ils se disent « si on se fait envahir, ça va être les gens qui gravitent autour qui vont se faire frapper, ça va nous donner le temps de se mobiliser puis on va contre-attaquer par la suite ». L'armada, elle, est plutôt composée de vaisseaux spatiaux dont les propriétaires cherchent à profiter des avantages de vivre près de la station d'Absalom, mais qui ne veulent pas vivre sous les réglementations d'Absalom. Parce qu'après tout, tu es dans ton propre vaisseau. Le gouvernement généralement permissif d'Absalom Station le permet car le volume des échanges commerciaux qui affluent dans ses couloirs signifie que même les taxes les plus basses suffisent à maintenir la station à flot. Cela ne veut toutefois pas dire que la station fonctionne en parfaite harmonie. Avec tant d'intérêts différents sur et autour de la plateforme, la station d'Absalom est toujours à un pas du cap. Les entrepreneurs s'attaquent aux gangs criminels. Les explorateurs s'affrontent pour des revendications sur des mondes récemment découverts. L'une des factions les plus dangereuses qui a émergé récemment est le mouvement Strong Absalom. Ce groupe croit que la pierre des étoiles, la Starstone, n'appartient qu'aux races réfugiées de Golarion en compensation de leur monde perdu et que les autres races devraient être soit taxées de manière exorbitante ou carrément interdites son utilisation. Évidemment, en ce moment, le groupe a des approches très xénophobes et commence à faire du terrorisme. Et c'est probablement une des raisons qui commence à vous donner l'envie de partir à l'aventure parce qu'Absalom commence à être un peu trop chaud pour un groupe un peu hétéroclite. Alors que le commerce, la politique ont une atmosphère plutôt cosmopolite, sont les principaux attraits d'Absalom Station, ce ne sont pas les seuls. Le site Arcanamirium forme certains des meilleurs technomanciens du système solaire, tandis que le célèbre cosmonastère de la station enseigne la voie du solarien à tous ceux qui le veulent. Les organisations religieuses cherchent des convertis, l'agence Eyes Wide recrute des enquêteurs psychiques et la société Starfinder lance des expéditions dans l'inconnu. Et tout le monde qui s'y trouve recherche eux-mêmes l'aventure qui sera la leur. J'aimerais maintenant que vous me décriviez un peu vos personnages. On va commencer avec Gam Sundriller.
Gam Sundriller, le 12e fils de la noble famille Sundriller, une famille de nains qui a fait fortune dans l'exploitation de l'énergie, donc qui mine un peu l'énergie des étoiles. Donc en tant que 12e fils, ses espoirs de prendre le contrôle de la famille ou de succéder sont pas très élevés. Donc il vivote un peu, il va d'une aventure à l'autre, il change de programme d'études à peu près à tous les 6 mois, et... bon vivant, il aime bien la vie, mais il sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Et pour lui, ça le dérange pas trop.
On va continuer avec Trap.
Oui, Trap, en fait, c'est un Isuki qui est toujours prêt dans toutes les situations. Il est, bon dans à peu près tout. C'est un grand pilote qui est, ma foi, très, très discret. Mais qui laisse pas sa place pour autant. Il peut parfois tomber sur les nerfs, mais il est plein de bonne volonté.
Merci, Trap. On va continuer avec Xaros.
Oui, Xaros est un personnage à la peau grise, aux rayures bleu pâle. Quand même costaud, mais pas particulièrement... bâti, là, t'sais, il a l'air plutôt élancé, plutôt agile. Dans son attitude, il est plutôt posé et préfère garder un regard global plutôt que d'être en avant-plan, mais il le fait lorsque c'est nécessaire. Et on peut le voir toujours aux côtés de Zacharias, derrière lui, là, tout près, est prêt à agir en cas de problème. Il a l'air sur ses gardes et toujours en train d'observer ses alentours d'un air méfiant.
Et évidemment, pour terminer, le seul humain du groupe...
Zacharias Oliviero, il est deuxième fils de la famille Oliviero qui gère l'export et l'import sur la station Absalom. Et au grand dam de ses parents, n'est pas très intéressé par l'entreprise familiale. Il s'est versé dans l'ingénierie et un désir de voyage grandissant. Et il est là aussi pour rappeler à Zaros que tout n'est pas toujours chaos et qu'on peut avoir du plaisir dans la vie.
Fait que voici la prologue qui a fait de vous un groupe qu'on peut dire un spaceship crew. Un groupe qui a enfin leur vaisseau prêt à voyager ensemble. Vous êtes parti d'Absalom il y a de cela 3 jours déjà. Vous aviez l'habitude de travailler ensemble sur de petits contrats, mais jamais rien qui vous aurait donné les moyens de vous permettre un vaisseau. On se rappelle, un vaisseau peut coûter des millions de dollars en crédit. Et vos personnages avaient sur eux peut-être 100 de crédits chacun, ce qui était loin de la somme nécessaire pour s'acheter un vaisseau spatial. Une journée anormale commença lorsque Zacharias a une conversation téléphonique avec son père Arakim. Arakim est tellement occupé que rare est les temps où il prend le temps d'appeler son fils, donc déjà, de l'appeler pour un contrat, c'était étrange. Celui-ci lui ordonna sans tarder de réunir ses amis puis de se diriger à une location qui allait lui envoyer par message. Une fois la location reçue, tu l'as envoyée à Trap, Gam et Xaros. Vous avez commencé à vous rapprocher d'un entrepôt. Vous avanciez vers ce bâtiment imposant avec un rythme à mi-chemin entre l'inquiétude et l'engouement qu'apporte l'avarice d'un bon contrat. De l'extérieur de l'entrepôt, se trouvait dans un coin de la ville où vous n'aviez aucun doute sur la nature fructueuse du contrat. Tant c'était... quand on parle de la nature cosmopolitaine d'Absalom, elle est parfaitement représentée à cet endroit. Tout a l'air riche, flamboyant et trop moderne quand on le compare aux étages inférieurs où tout est à moitié rouillé. Les bâtiments étaient d'un blanc immaculé qui ne servait qu'à accentuer cette multitude de fenêtres plus grandes les unes que les autres, qui servaient autant de nids à voyeurs que de projecteurs à publicité. Dans ces quartiers de bureaux de la haute société, le silence régnait en ce milieu d'après-midi. Absalom avait ses propres lumières venant simuler digitalement les heures de la journée pour permettre à certaines régions de la station spatiale de fonctionner dans un horaire propre à eux, et non restreint par la grande puissance de la Burning Mother, comme on appelle le soleil dans Starfinder. Alors que vous arrivez à la porte d'entrée, celle-ci émet un écho robotique et une voix se fait tout de suite entendre directement dans votre tête. « Veuillez entrer, nous vous entendions. » Cette voix vient donc s'ancrer dans votre esprit alors que la porte s'ouvre par elle-même, vous laissant dans un corridor qui semble, à première vue, ne jamais se terminer par sa longueur. Vous suivez une forme de lumière qui semble vous guider un pas à la fois, s'éteignant et se rallumant quelques mètres plus loin. À force de marcher, vous arrêtez puisque la lumière semble disparaître au lieu de continuer vers l'avant. Un moment inquiet, le premier d'entre vous décide de franchir le pas qui les sépare et traverse une forme... Il sent sur sa peau, mais ça ne laisse aucune forme, c'est comme une forme translucide, et dès qu'il traverse cette pellicule, il se retrouve dans un laboratoire, disparaissant ainsi à la vue des 3 autres, et je présume vous les avez suivis sans perdre. Vous êtes arrivé dans un laboratoire très étrange parce que c'est presque juste des hologrammes de soleil, de formes de soleil différents, mais au milieu, vous avez comme une réplique fonctionnelle d'un soleil, mais très 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 miniaturisée et entourée de plusieurs champs de force, puis l'énergie nécessaire pour contenir la force de ce soleil-là, c'est tellement de champs de force que c'est visible pour vos yeux. Pendant votre confusion, vous rendez compte qu'une Lashunta est en train de vous regarder de loin. Je vais vous montrer ici sur Starfinder pour que vous puissiez la voir. Donc, cette dame vous regarde dans un bureau, puis c'est la seule qui vous regarde alors que toutes les autres employées travaillent très rapidement puis font d'autres choses. Ils ne s'occupent pas du tout de votre présence. Elle vous fait signe d'avancer, puis vous vous rendez compte que derrière sa tête, elle a une antenne qui sort de sa colonne vertébrale, puis semble monter à peu près jusqu'au-dessus de sa tête. Pour Zacharias, t'as l'impression que c'est la seule façon qu'elle a été capable de vous atteindre de l'extérieur du complexe, parce que toutes les technologies ou races qui utilisent la télépathie ont souvent une distance de 30 pieds avec leur interlocuteur, et elle doit servir de son antenne pour se projeter, selon toi, à plusieurs kilomètres.
C'est une belle pièce de technologie que vous avez là.
Tu vois que, à chaque fois qu'elle te parle, t'as l'impression que ses lèvres bougent, mais il n'y a jamais un son transmis dans la réalité. Elle commence par te remercier de ta présence. Elle met sa main vers l'avant pour faire signe de se calmer, puis vous voyez qu'au même moment que vous arrêtez de bouger, un des scientifiques passe devant vous en trombe, comme si elle avait prévu que tout mouvement pouvait faire risquer de faire trébucher le scientifique. Elle a l'air très connectée sur tout ce qui se passe et un peu sur tous les autres chercheurs de la station.
Oh madame, c'est vous qui nous avez fait venir!
Elle hoche la tête, puis vous entendez « oui, 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 oui » dans votre tête plusieurs fois.
Mais c'était pas ton père qui nous avait dit de venir?
Je suis pas sûr de comprendre. J'imagine que il avait entendu parler de vous. J'imagine que vous l'avez contacté directement.
Effectivement. Pas encore, t'entends l'écho. Effectivement. Dans la tête, tu l'entends résonner. Puis vous avez l'impression que la proximité est peut-être un des effets. En ce moment, vous êtes très proche de l'antenne. Vous avez peut-être l'impression que vous pognez les reverbs de son ombre parce qu'elle canalise sur tout le monde en même temps.
OK. Êtes-vous... OK.
J'aurais besoin de votre aide pour se rendre à une de nos stations spatiales. Puis vous voyez que quand elle enchaîne les mots, vous perdez l'écho parce que les mots sont trop forts dans votre tête pour que vous entendiez le reverb. Nous ne possédons dans notre station au moment aucun pilote capable de nous apporter à la station lointaine se trouvant proche du soleil. Nous aurions besoin de votre équipe pour nous apporter jusqu'à destination. Comme nous pensons rester là plusieurs années, nous vous laisserions le vaisseau comme paiement.
Trop bien! Oui, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait!
Sans tarder, alors. Donc, vous vous êtes levé, la conversation s'est mise, puis rapidement, vous avez vu trois autres scientifiques s'entourer autour d'elle, au même moment que dans votre tête, vous entendiez « Regroupez-vous! » Puis maintenant, autour de ces quatre nouveaux scientifiques, ils ont toute l'attitude très calme, sont très focus dans leur travail. La majorité, ils ont un ordinateur sur leur bras. C'est plutôt une forme holographique. Ils tapent sur un hologramme, mais ça fait des données. Fait qu'ils sont plus concentrés là-dessus que sur votre présence. Puis ils se dirigent tous vers ce qui se retrouve à être leur entrepôt à vaisseau. Ils vous pointent votre vaisseau. Vous rentrez à l'intérieur. Vous prenez quelques heures à regarder les systèmes de fonctionnement. Elle vous tend un manuel qu'elle ne va pas prendre le temps de lire. Il semble vraiment intéressé. Trap commence à genre feuilleter toutes les pages.
Puis dès que il y a prêt... ça aussi dedans! Wow! Deux canons! Pas juste... Oh! Il est 360! Wow! OK, calme-toi, Trap. Calme-toi. C'est pas toi qui vas être à ce canon-là.
Maître Zach, je trouve qu'il y a quelque chose de louche. C'est un bien grand cadeau.
J'ai déjà pris en photo le soleil intérieur. C'est captivant comme source d'énergie, en fait. Mais bon, à cheval donné...
Je présume que vous aviez cette conversation-là, non à l'écoute, comme non à distance d'oreille des quatre à chaque
fois. Ben, c'est ça. Ouais.
Fait que pendant ce temps-là, je présume que Trap, tu prépares le démarrage du vaisseau.
Et puis, je dis à haute voix toutes les belles affaires du vaisseau. Vous savez, il fonctionne avec un Arcus Ultra de 150 PC. Vous imaginez?
Je crois pas avoir entendu votre nom.
Moi, c'est Trap.
Non, pas toi, Trap. Je parlais à notre...
Il était revenu voir les scientifiques. T'entends dans ta tête, mon nom est Héritide.
Héritide. D'accord. J'imagine que vous avez une version numérique de ce manuel, quelque part.
Au moment que tu dis ça, tu vois qu'il y a un scientifique qui tape. tu le reçois dans ton datapad.
Heidi, tu peux me classer ça, s'il te plaît?
Sans problème, maître. T'entends l'ordinateur comme faire 2-3 sons, puis tout se replace. Selon ton ordre de préférence.
Bon, ça... Là, fallait aller où déjà?
Elle sort une carte de la station spatiale sur Tabletop. Vous pouvez voir un peu en arrière à quoi ça ressemble, le système solaire. En ce moment, vous êtes à la station Absalom, puis vous dirigez vers le Soleil. C'est un voyage qui dure environ 6 jours. Puis la prologue, c'était il y a 3 jours. Il vous reste environ 3 jours de voyage à faire dans le vaisseau spatial avant d'arriver à la station. Il s'appelle le Portail Lointain. Quand vous regardez cette map-là, vous n'êtes pas capable de voir la station spatiale, mais quand vous regardez la map de la Lashunta, vous voyez que c'est très zoomé entre la distance entre la première planète du système solaire et le Soleil. Puis vous voyez que très, très proche du Soleil se retrouve une station qui semble orbiter autour d'un très grand anneau. C'est les seuls détails qu'on voit sur la carte.
OK, les gars, on a encore un bon bout d'affaires. Mais c'est pas tant long pour un vaisseau. Mais,
Trap, est-ce que t'as besoin de quelque chose qu'on fasse pour se rendre plus rapidement, ou est-ce que...
Non, mais... Si vous... En fait, faites ce que vous voulez. Je m'occupe du vaisseau. S'il y a un problème, je vais crier plus fort qu'à l'habitude.
Bon, ben, profitons-en pour voir les appartements et...
J'ai déjà pris ma chambre. Il est écrit « Trap » sur mon lit.
Je vais vous décrire l'intérieur du vaisseau. Donc, votre vaisseau, le poste de commande de pilotage, c'est là que va se retrouver aussi les ordinateurs de commande. Après ça, vous avez un pont. Sur votre vaisseau n'a pas beaucoup de hauteur, pas beaucoup d'étages de hauteur. Il y en a juste 3. Mais la majorité des espaces où vous allez vous déplacer se retrouvent dans l'étage supérieur. C'est là qu'il y a le centre de pilotage. Il y a le bridge. Sur le bridge, vous avez les deux chambres. Chaque chambre possède 2 lits, mais très séparés. Donc, vous avez comme une moitié de pièce, littéralement, pour chaque personne. Chaque lit a un armoire, une table de chevet, toute l'équipe. En fait, la description exacte d'un good crew quarter, c'est tout ce que vous auriez besoin pour votre nécessaire. Tant que c'est pas du très gros luxe, vous l'avez dans votre demi de chambre. Sur l'étage du haut, c'est aussi là que vous avez votre salle de bain. La deuxième étage, c'est le seul espace commun, c'est votre cuisine. Puis le dernier en dessous, en bas, c'est où que toutes les moteurs. La turret, c'est un petit dôme là en haut du bridge qui tourne 360.
Excellent.
La première chose que Zach va faire, c'est allumer son datapad puis commencer à lister des choses qu'il faudrait qu'il rajoute pour être plus confortable.
Aussi, dans votre vaisseau, vous avez déjà un passenger quarter, ça s'appelle. Donc, votre vaisseau a la faculté de transporter jusqu'à 6 passagers. Évidemment, il vous aurait pas passé un vaisseau que les passagers scientifiques auraient été pognés à dormir à terre. Les 3 autres salles, pour l'instant, c'est des cargo halls. Sont complètement vides, par contre, mais ils ont toutes été équipés pour être capables d'ouvrir une porte de votre vaisseau pour faire rentrer du stock.
OK.
Fait qu'ils peuvent être transportés
en... Cette porte-là se trouve où? Est-ce qu'elle est en dessous du vaisseau ou derrière? Hein?
C'est tout le temps une porte, tu sais, qui descend comme en angle.
Okay.
Mais il y a aussi, c'est ça, mais il y a aussi des accès à l'intérieur du vaisseau.
Ouais.
Que vous me voyez, quand que Zach choisit sa chambre, commence à inspecter, je vérifie les recoins autour du lit s'il n'y a pas des mécanismes cachés ou des pièges ou des choses suspectes. Je fais une grande inspection méticuleuse de la chambre.
Fais-moi donc une perception pour le film.
Excellent. Donc, perception. J'ai plus 2. Allons-y. Que 21.
Tu trouves rien de suspicieux, rien qui pourrait être dangereux, tout est parfait. Mais à un moment donné, dans ta recherche, tu trouves en dessous d'un lit un pretty stick de 5 crédits. Un scientifique qui aurait dû l'oublier là.
Ah, ben, je le mets dans ma bourse à crédit.
Penses-tu vraiment qu'il y a des problèmes avec ce contrat-là déjà, ou...
On ne peut jamais être trop prudent, Maître Zach.
Je suis pas mal certain que c'est faux ce que tu viens de dire. Tu peux toujours être trop prudent.
Je vous l'ai dit, je méfie grandement de ces personnes. Je sens quelque chose dans l'air.
Pendant que la journée avance, vous voyez que les scientifiques sont surtout concentrés sur une donnée en particulier qui est le soleil de votre système solaire. Souvent, ils font juste apparaître l'hologramme ou ceux qui sont en train de travailler, puis ils prennent des notes dessus, puis ils ont toute l'air de travailler sur différents programmes. Parce que si vous regardez le datapad, vous avez en masse le temps. Là. Il y en a un qui a de l'air de calculer ce qui semble être la température de plusieurs couches dans le soleil. Il y en a un qui a de l'air de calculer à quelle fréquence il va avoir des flame bursts, un peu comme à quel temps on va voir des langues de feu se former autour du soleil pour aller s'élargir. Il y en a un qui a l'air vraiment de se concentrer sur, quand tu regardes le scan, on voit l'anneau puis la station, puis il a l'air de calculer l'anneau.
Puis ça, on voit où, ça?
C'est tout sur leur pad, parce qu'ils travaillent sur des hologrammes. Fait que peu importe mais où c'est qu'ils sont.
Eux, où ils sont? Ils se promènent dans le vaisseau?
Ouais, tu sais, souvent, ils sont dans leur quarter, sinon, ils sont sûrement dans la cuisine.
Ah, OK. Fait que je les vois jamais.
Non, c'est toujours en train de conduire.
Je suis comme, bon, faudrait que j'aille me coucher. Ouais, peut-être dormir ici. Autopilote.
OK. Fait que les journées passent. Est-ce que vous avez des questions pour les scientifiques ou vous les laissez juste vivre leur vie?
C'est certain qu'à un moment ou à un autre, je serais allé les voir pour voir, par curiosité, voir sur quoi ils travaillaient.
C'est toujours sur ce que j'ai décrit. Tous les jours des séjours, c'est toujours le même hologramme, les mêmes datas.
Est-ce qu'ils nous parlent?
Juste si vous leur parlez. Sinon, ils sont pas concentrés.
J'essaie de penser à des questions, mais j'ai pas vraiment de questions pour eux. Moi, je suis juste genre « Wow! » Quand est-ce que je vais être capable de me faire un ECM-063? Parce que tout le monde sait qu'on vole présentement sur un type de ship ECM-062. Hein? Hein? Hein?
T'as comme un des scientifiques qui est comme, évidemment.
Ah, merci.
Moi, je fais ma sieste de temps à autre. J'ouvre un œil pour regarder qui c'est qui parle autant. C'est toujours la même personne.
Je passe un certain temps à observer les scientifiques en silence dans l'arche de la porte. Je les regarde, je les écoute. J'essaie de voir si j'interromps pas des fois des murmures ou des conversations qui semblaient être destinées à ne pas être entendues.
Rapidement, tu te rends compte que tu sois là ou que tu sois pas là change rien du tout à la routine. Sur le long terme, parce qu'ils parlent très peu. La majorité, ils font juste s'envoyer les datas sur leur tatapap. Quand ils parlent, c'est des gens de « Wow, t'as-tu vu ça? »
OK, parfait.
Est-ce qu'il y a des données qui apparaissent sur leurs travaux qui semblent être aberrantes?
Attends, je vais aller voir c'est quoi les jets qui pourraient avoir rapport là-dedans.
Mettons « Physical Science
». Ça serait du « Physical Science », ouais. Everything looks fine. Tout a de l'air normal. Là. C'est des chiffres, ça a de l'air cool.
C'est bon.
Si vous voulez aussi, vous pouvez inscrire le chiffre de votre bonus à côté de votre lancer et après le faire comme ça, ça va le faire puis ça va l'afficher comme il faut.
Exact.
Ouais, j'avais oublié.
L'addition mais oui. Pour tout le monde. Autre chose que vous voulez faire avec les scientifiques?
Non, pas au moins.
Est-ce qu'on peut. Ils sont vraiment présents.
Mm-hmm.
Après 2-3 jours à essayer de faire du small talk puis à se faire répondre par des one syllabe, j'abandonne.
Après tout, ils vous payent un vaisseau, tu sais.
Comme, OK.
OK, fait que vous terminez votre voyage à la 6e journée. Le portail lointain est une structure ancienne et mystérieuse flottant au bord de la couronne solaire. Cette porte métallique massive est un vaste anneau métallique gigantesque. À l'intérieur de cet anneau se trouve un portail magique sur les maps, vous n'étiez pas capable de voir, ni sur l'hologramme. Mais maintenant que vous le voyez avec vos yeux, c'est définitivement weird. C'est plein de couleurs, puis ça tourbillonne au milieu de la rue.
Wow!
L'anneau, il est assez grand pour accueillir n'importe quelle taille de vaisseau que vous êtes capable d'imaginer.
Wow.
C'est qui, d'après vous, qui est le plus proficient en culture?
Ça dépend. Est-ce que c'est à propos d'un starship?
Non.
Moi aussi, j'ai des spécialisations. Mais...
Ça serait à propos soit des plans immatériels, des... Ouais, ça serait genre plain knowledge.
Il n'y a rien qui est fait en roche dans ce portail-là, par hasard.
C'est un gros anneau de métal.
Un incestique, comme on dit.
Je pense que c'est moi.
C'est ton jet?
Ok. Alors?
Ça a donné 12.
Exact.
Tu te souviens avoir lu dans tes livres que ces anneaux-là sont surtout utilisés dans votre système solaire pour des voyages, soit de très très long jump, tu sais, pour des raccourcis spatiaux ou pour aller directement dans d'autres plans, mais tu pourrais pas dire où, quand, comment, pourquoi.
Alors, je réexplique ça en disant wow, c'est pour ça, normalement, c'est fait pour faire des gros voyages très très loin ou dans d'autres plans, mais je pourrais pas dire où.
Quand tu dis ça, Héritide semble surpris, comme elle a un petit sourire, tu sembles avoir piqué son intérêt, fait qu'elle rajoute « Quelques expéditions du plan matériel ont réussi à traverser le portail, mais peu ont réussi à revenir. »
Oh, c'est dangereux!
Elle lâche avant de rajouter
« Il s'agit de dimensions parallèles? »
En fait, de ce que nous avons compris des informations que nous réussissons à recevoir avant de perdre contact avec l'autre côté, c'est qu'il s'agit en fait du plan du feu.
Le plan du feu?
Mais nous sommes dans le plan matériel. Et il y a un autre plan. Elle regarde vos expressions, puis elle fait juste dire... Une autre dimension.
Oui, oui. Oh! On prend le principe, mais...
Mais de feu. Tout est en feu.
Juste du feu.
Imaginez l'intérieur d'un soleil, mais étendu partout dans l'univers.
Ok, mais je veux pas aller là.
Mais pourquoi faire une porte vers une telle dimension?
Ouais! Ah,
c'est pas nous qui a fait la porte.
Ok!
On a fait la station à côté de la porte.
On va pas là!
Elle va nous prendre pour une gueule de deux.
Fait que là, vous êtes-tu en train de nous dire que c'est là qu'on va?
Non, et non, moi j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez à la station juste à côté. La station
du coup. Sans problème.
Je suis okay. Déjà presque arrivé, Trap, de toute façon.
C'est ça, je disais, je sais comme, là, ils vont-tu nous dire, là, vous allez par là!
Pendant que tu réfléchissais à ça, t'es Héritide, ses vêtements, c'est une tunique verte qui a aucune possibilité de dissimuler un arme, puis un pantalon vert moulant qui a aucune possibilité de dissimuler un arme, et elle a rien. Ça n'a même pas de ceinture pour transporter un objet, il a juste son antenne dans son dos, elle n'est pas équipée pour rentrer dans un plan de feu.
On sait jamais, parce que moi, d'après moi, c'est une cyborg, fait qu'elle est capable de faire bien des affaires, je pense.
Je juste pensé ça. C'est insultant, ça va traiter tout ça.
Je vais me pencher sur Trap et dire traiter les gens de cyborg à voix haute comme ça devant eux, c'est pas très.
Mais t'as vu l'antenne, non?
Oui.
Chut. T'entends dans ta tête, Trap, l'antenne me permet de rejoindre les miens beaucoup plus loin.
Les autres cyborgs?
N'importe qui, vous n'êtes pas un cyborg et je parle dans votre tête.
Ouah! Non, c'est vrai, je suis pas un cyborg. Encore!
Alors que vous approchez de la station, vous réalisez que la station est plutôt compacte et donc pas pensée du tout pour une très grande équipe. Vous avez l'impression que les 4 scientifiques sont avec vous, c'est probablement comme le maximum de d'autres personnes qui vont pouvoir rentrer sur le long terme. Ils vous prévoient pas là pour des mois et des mois de mois.
Donc, vous allez passer plusieurs années ici, puis là, Zach, il dit ça en regardant comme le peu de facilities.
Effectivement, nous avons besoin de regrouper certaines données qui est très difficile d'accès dans mon laboratoire sur Absalom.
Ah, je me suis complètement tout trompé d'abord. Moi, je pensais qu'on venait chercher du monde, pas qu'on venait porter du monde.
Non, vous venez me porter là-bas.
Oh! Fait que là, c'est le travail terminé.
En fait, j'aurais besoin que tu m'amarres. Je ne prévois pas faire un saut spatial jusqu'à la station. Donc, fais-moi un jet de pilotage. J'aurais besoin que tu amarres le vaisseau au dock parce que... Elle va pas prendre un sou puis faire un jump spatial pour
toi. Bye!
C'est bon, tu tankes vraiment sans problème. T'es même guidé. Tout de suite, quand t'arrives proche de la porte, il y a une voix qui commence à te parler dans le micro puis qui te guide sur des données à rentrer dans ton ordinateur pour comme être sûr qu'il fasse le parallèle parfait selon comme la position de la porte de la station.
Excellent!
Dès que c'est fait, la porte, elle s'ouvre. Puis rapidement, les trois autres scientifiques quittent, puis ils restent juste irrités avec vous.
Vos collègues semblaient pressés.
Nous vous donnerions pas un vaisseau si ce n'était pas de matière urgente. Nous aurions attendu un de nos pilotes.
Ouais, j'imagine. Vous travaillez sur quoi exactement?
Le soleil.
Oui, mais vous avez dit que c'était urgent. Il y a un problème avec le soleil?
Ah, oui. Donc, comme elle dit ça, ouais. Elle commence à marcher vers la sortie.
Attends une minute, là. Wow, quoi?
Ben, je la suis. Vous avez dit qu'il y a un problème avec le soleil?
Du moins, on croit, oui. Donc, on étudie.
C'est une information pertinente. Vous êtes quatre à travailler sur un potentiel problème avec
le soleil? Et les gens de la station du portail lointain. Nous sommes peut-être une équipe de 30 chercheurs. Comme vous dites ça, vous commencez à rentrer puis à marcher dans la station. Vous êtes amarrés dans une station dans laquelle vous voyez votre vaisseau. Pour l'instant, il n'y a pas encore de lock dessus. Puis il y a deux autres vaisseaux qui sont déjà dans la station, puis eux sont 100% lock. Tout a été enlevé, les moteurs sont éteints, il y a des gros trucs métalliques qui tiennent le vaisseau en place pour éviter que s'il y a tout mouvement gravitationnel ou qu'un flame burst frappe la station, le vaisseau décolle.
C'est quel genre de vaisseau?
Ils sont très, très similaires au vôtre. C'est quelques détails d'architecture, mais c'est la même size, les mêmes armements, tout identique. Puis vous avez l'impression que c'est une flotte de la compagnie. T'sais, ils sont fait faire comme 5-6 vaisseaux identiques.
OK.
Est-ce que je suis capable de reconnaître la compagnie en question?
Fais-moi un jet de culture avec ton...
Avec mon bonus. Ça fait 13.
Ah, c'est quand même bon. Tu sais que le portail lointain, c'est surtout trois grandes compagnies. Je pourrais pas dire exactement les noms de ces compagnies-là, mais c'est un conglomérat de ces trois-là qui vivent aussi dans le dôme, comme où ton père vivait. Entre autres, tu connais surtout une des trois parce que c'est celle qui a vendu la flotte de vaisseaux. En fait, t'en as une qui s'occupait surtout des vaisseaux. T'as une des trois maisons qui sont devenues riches avec la science, surtout la science relative à l'énergie du soleil et à comment analyser le soleil et vivre avec son existence. Et la troisième famille s'occupe surtout d'aller chercher le sponsorship, toutes les commandites qui ont besoin pour que le portail fonctionne, parce que ça coûte très cher. Le monde qui travaille là-bas, tu le sais, c'est vraiment des spécialistes. Tu sais, t'as même l'impression que l'antenne qu'elle a dans le dos, ça vaut des centaines de milliers de dollars.
Quoi? Qu'est-ce que quoi? Centaines de milliers de dollars?
Ouais, c'est pas des implants simples à
mettre. Non, c'est ça. C'est vraiment compliqué à mettre, puis c'est... C'est branché de la tête jusque dans la colonne vertébrale. C'est comme assez compliqué.
Mais de toute façon, je crois que c'était pas déjà télépathe de base, l'antenne.
Non, c'est ça, tu peux pas l'activer en plus, ça l'aide pas. C'est juste une amplification de télépathie. Fait qu'elle, comme elle vous dit ça, elle vous pointe ce qui se retrouve à être une mini salle vitrée directement collée sur la... Je vais appeler ça l'enclos à vaisseaux. La place dans laquelle tous les vaisseaux sont stationnés. Puis, vous avez l'air de voir quelqu'un qui est plutôt agité. Ça a l'air d'être une petite madame qui a de l'énergie. Comme elle pointe dans plusieurs directions. Puis elle a l'air de comme, elle pointe quelqu'un. Puis quand il parle, elle a l'air de même. Toi, la bouche. Puis de loin, vous avez l'impression que c'est elle qui a l'air de gérer un peu quel scientifique travaille sur quoi dans la station. Puis Ritid fait juste vous pointer vers elle. Puis quand vous tournez la tête, vous revenez, elle est déjà comme gone. Tu sais, elle est partie travailler sur ses affaires.
Heidi? est-ce que tu peux me sortir les informations sur le dirigeant de l'équipe de recherche de la station, s'il te plaît?
Évidemment. Mais là,
ça commence
là,
à faire le scan. D'ailleurs, je vous ai sorti la photo en attendant.
Mais là, on n'a pas déjà fini le travail?
Non, mais s'il y a un problème avec le soleil, ce serait bien de le savoir, non?
C'est quand même d'intérêt général, je trouve.
Oui, je comprends. Je pense pas qu'on peut faire quelque chose. C'est peut-être juste mon avis, mais là, on a un vaisseau, puis on peut s'en aller.
Ces gens-là étaient prêts à nous donner un vaisseau pour venir ici plus rapidement. Ils ont sauvé quelques jours seulement. Est-ce que tu réalises à quel point ça doit être important, sur quoi ils travaillent?
Peut-être.
Trap, combien il vaut le vaisseau? Tu dois le savoir.
Je suis sûr que je peux pas mal t'estimer ça.
Il vaut entre 8 millions puis 12 millions.
Je dirais 10 millions à peu près, à vue d'œil.
Tu connais beaucoup de gens qui seraient prêts à payer une somme comme ça pour sauver quelques jours?
Des gens qui travaillent dans l'œil puis qui ont de l'argent puis qui s'en torche de l'argent parce qu'ils en ont trop.
Pendant que vous discutez de loin, tout soit encore, le scan continue à faire, est comme rendu à peu près à 80%. Puis la madame, comme elle vous voit, elle a fini de pointer des scientifiques, puis elle comme elle vous fait signe d'avancer, tu sais, comme venez me voir.
Je veux dire, tout bas, à toi, clairement, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'argent.
Au moment où tu sais, le scan, il termine. Sur les informations générales que tu es capable de retrouver sur la personne. Elle s'appelle Jory. Je veux juste trouver son nom de famille. Je sais que je l'ai écrit quelque part. Je pensais pas que j'en aurais besoin. Elle s'appelle Jory Kimosan Kofa.
Kimosan Kofa.
Bon, ok, c'est on marqué, va aller la voir, la madame.
C'est marqué du clan Triade.
Clan Triade?
Mm-hmm. T'as l'impression que c'est juste un shortcut dans tes données pour quelqu'un qui fait partie du conglomérat des trois familles.
Ok.
Hello!
Évidemment. Est-ce qu'elle a un titre officiel sur la station ici ou pas?
Ouais, en ce moment, c'est CEO des recherches sur la station. Est-ce qu'on s'est approché d'elle? Parce qu'elle vous regarde encore en faisant
des
signes.
Oui, je suis en face d'elle, puis je fais des halos, mais on dirait que je suis pas assez grand, je saute un petit peu. Allô!
Vous étiez assez loin, vous commencez à vous approcher. Et soudainement, des cris s'élèvent parmi un groupe de scientifiques qui se tient près d'un écran massif qui montre des images en direct du portail lointain dans différents angles de vue puis dans différents spectres de couleurs.
C'est pas là où on se trouve, le portail lointain?
C'est le portail qui est directement à côté de votre station.
Ah, ok.
Alors que de plus en plus de personnes abandonnent ce qu'elles font, ce que vous avez jamais vu avec cette équipe de scientifiques-là, là, c'est comme l'équipe la plus focus sur la planète, sur la station... Bref, commence à courir tout en direction des écrans. La foule a grandi super vite. Est-ce que vous vous rapprochez?
Yep. Je vais dire, Heidi, est-ce que tu peux enregistrer ce qu'on voit?
Record. Elle commence à enregistrer.
Je vois rien. Ma main nerveusement sur ma spear.
Je vois rien. Il y a trop de monde.
Tu vois, il y a comme plein de fesses dans sa face. Fait que vous voyez que sur l'écran, le portail, il commence à scintiller. Habituellement, il est un mélange de bleu puis de rouge. Mais là, le rouge, qui est juste comme un peu un tourbillon, habituellement, comme un petit peu un cercle, quand t'essaies d'hypnotiser quelqu'un, là, c'est comme une petite ligne dans le cercle. Mais là, ça prend toute l'ampleur. Tu vois comme le rouge commence à faire tout le portail. Ça scintille. Puis vous voyez un vaisseau sortir du portail. Le vaisseau...
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Le vaisseau semble construit en laiton poli et en pierre noire. Il laisse échapper des gaz et de la fumée, puis est manifestement endommagé. Visible même sur les vidéos, de loin.
Xaros, je vais monter sur tes épaules!
Au même moment, t'as Trap qui grimpe super agilement sur tes épaules!
J'utilise un de mes bras pour l'aider.
Oh!
Les membres du groupe des spectateurs applaudissent
t'en as certains qui sont vraiment tellement chocs qu'ils bougent pas, là. Sont comme, c'est la première fois que quelque chose sort de ce portail-là. Eux, ils envoient des affaires qui ressortent jamais. Hey! Là, c'est quelque chose par lui-même.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que nous, on a envoyé ou c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu?
De la réaction, parce que vous avez même pas le temps de parler, là. C'est du chaos, tout le monde, et le bruit est intense. T'as l'impression que c'est pas quelque chose qu'ils ont envoyé d'un, c'est pas les couleurs. Vous autres, votre flotte, comme vous pouvez voir sur votre vaisseau, c'est tous des vaisseaux un peu grisâtres, alors que le vaisseau qui vient de sortir est vraiment flashy. Je vais vous le sortir bientôt sur la map, vous allez pouvoir le voir.
Il était fait en quoi déjà?
En laiton et en perle noire, en pierre noire.
Est-ce que je peux rouler un stone cunning pour voir si je reconnais? Yes.
Go. Est-ce que je peux savoir quel genre de vaisseau c'est, moi?
J'ai roulé un 15, puis j'ai plus 10, fait que 25.
Ouais, c'est le genre de pierre que tu sais qui peuvent juste être trouvées, mettons, si tu irais dans le centre d'un volcan ou des endroits où que la température est impossible à survivre. Tu sais, c'est probablement pris d'une place qui faisait chaud en tabarnak.
Est-ce que je peux savoir lequel genre de vaisseau c'est?
Fais-moi un jet de culture. non. Puis c'est vraiment étonnant pour toi, parce que tu connais presque tous les vaisseaux qui existent dans votre système solaire. Puis ce type de vaisseau-là, ce que tu trouves le plus bizarre, c'est surtout l'architecture du vaisseau, comment il est fait. Il n'y a pas de race dans votre système connu qui utilise cette forme-là.
J'ai jamais vu ça! Wow!
Le vaisseau a l'air endommagé.
En
voie de l'aide ou...
Pendant que t'es en train d'avoir cette pensée-là, vous voyez que le portail commence à vaciller de nouveau.
Oh, il y en arrive d'autres, je pense!
C'est peut-être une invasion.
Puis il y a une nouvelle forme qui sort du portail. Mais la forme qui sort du portail, tu sais, la première forme qui est sortie, c'est quand même un petit vaisseau, à peu près de la même grandeur que votre vaisseau à vous.
Est-ce qu'il est vraiment endommagé, le premier?
Oui, vous voyez de la fumée sortir par en arrière, comme il y a l'air pété.
OK.
Après ça, après que ça a l'air vacillé, vous voyez une nouvelle forme qui sort, mais cette fois-ci, c'est une baleine titanesque. C'est ça que vous voyez sur l'image, vous voyez vraiment une baleine. Puis après ça, vous voyez que comme il y a des scientifiques qui tapent des codes pour zoomer, vous vous rendez compte qu'elle a des bouts de métal qui sortent d'elle de partout, puis qu'elle a été transformée dans une sorte de forme semi-vivante, semi-un véhicule.
Ça, j'ai-tu le droit de dire que c'est un cyborg?
Oui. Tous les trucs métalliques que vous voyez... Une fois que c'est zoomé sur la baleine, c'est tout d'un métal aussi noir que les pierres du vaisseau.
Est-ce que un des vaisseaux a l'air de faire quelque chose à l'autre vaisseau?
Au moment que tu dis ça, chasse? Comme il y a un scientifique qui s'en vient, ils sont tournés vers toi et t'as dit comme « Chris, on suit le show en même temps que toi, là! » Puis au même moment, la baleine, elle crache une boule de feu. Pouf, ça slame dans le vaisseau. Pam! Gros impact. T'entends un scientifique, la Shunta, planqué devant une console. Il lance un scan et comme... Oh non! Oh non, l'impact a fait tomber les boucliers! La petite madame qui était dans le bureau est rendue directement à côté de vous. Elle n'avait pas le temps d'attendre finalement que les choses se passent. Puis vous voyez que sur le scan... Parce que là, ils suivent en temps la baleine, puis sur les autres écrans, le vaisseau. Sur l'impact, là, vous voyez que la coque a commencé à noircir. Là. C'est si chaud que ça a pété les shields et ça a déjà commencé à noircir la coque.
Wouah! Ça, c'était un gros coup!
Sundrailer, va tout de suite au canon. On se met en position.
On devrait,
s'attendre.
Y a-tu quelqu'un parmi vous qui a un proficiency en mysticisme? Ou qui est capable de faire? Fais-moi ça.
Bouge pas,
ça existe pas ces affaires.
Moi j'ai le proficiency.
Mi quoi?
Moi j'ai
mi cuit.
Et là 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 là. Et j'ai une roulée 1, fait plus 6, 7. Et
là là. Ok, t'as vraiment.
Ouais, ça existe pas.
Ça existe pas. Je comprends pas.
Moi j'ai eu 7.
Mi cuit, hein? Le vaisseau est rendu mi cuit. Mi seigneur.
Fait que Jory est rendu à côté de vous. Puis au même moment, elle pointe Zacharias. Puis selon l'attitude qu'elle prend avec toi, elle a juste décidé que t'étais le capitaine de l'équipe. Elle a vu un humain, elle s'est dit « c'est l'humain qui gère ». Je me pose pas de questions.
Hey, je suis le plus haut en ce moment! Je suis sur les épaules de l'autre!
C'est vrai, t'es encore sur mes épaules. Je te débarque à terre. Là.
Ok, on va vers le vaisseau! Je pars en courant vers le vaisseau.
Ben, toi, moins avant de pendant qu'elle essaie d'avoir une conversation avec toi, comme, elle est à moitié surprise que tu vois, pop et comme, est-ce que vous pouvez nous aider à arrêter ça? C'est la première fois qu'il y a un vaisseau qui sort.
On devrait aller au vaisseau. Ah, Heidi, est-ce que tu peux scanner, voir s'il y a des survivants dans le vaisseau? Puis je dis ça en m'en allant vers le vaisseau.
Là, Heidi, comme, je vais commencer le scan, donc je vais être assez proche pour ça, je trouve.
Comme je mets deux de mes bras sur tes épaules, puis ton dos pour te courir derrière toi, puis te couvrir, Zacharias.
Tu l'entends, pendant que vous partez, parce que en partie, elle avait juste crié comme « Ce vaisseau a une valeur inestimable! On vous remerciera grandement si vous le ramenez! »
Toi?
Je pense qu'elle nous parlait!
Okay,
bye! Bye, madame!
Vous rentrez, puis lui est déjà en train d'allumer des switches pour comment repartir le vaisseau. L'avantage que vous aviez, c'est que votre vaisseau n'était pas déjà lock. Tout leur vaisseau, eux autres, ça aurait pris comme une heure à tout enlever, les mécanismes de sécurité pour qu'ils puissent partir, et ils n'auraient jamais pu se rendre à temps.
Bon, on est le seul espoir de peu importe ce qui se passe à l'extérieur, donc...
Exactement. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser un like ou un commentaire, les deux, ça m'aide grandement. Si vous ne voulez pas avoir à attendre pour la suite, pour le prochain épisode, c'est tout simple, vous dirigez sur mon Patreon et vous prenez un rang de VIP ou supérieur et vous aurez accès aux versions complètes et sans édition des vidéos de la campagne. Si vous voulez discuter avec la communauté de questions de perspective ou encore que vous êtes un membre de mon Patreon, je vous invite à rejoindre le Discord de questions de perspective et ainsi vous pourrez avoir des nouvelles sur mes nouveaux vidéos. Vous pourrez discuter de tout et de rien avec la communauté et aussi profiter des avantages en lien avec votre rang Patreon si vous en avez un parce que tous les rangs presque ont un avantage précis sur Discord. Merci encore de me soutenir et au plaisir de se revoir sur un autre épisode tout le monde. À plus!